J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop, plus ou moins calme.
You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me?
Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello, come here.
Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Nous sommes le mardi 25 avril 2023 et vous êtes bien, et je dirais même très bien, sur Eau de Radio 91.3, la radio des Hauts-de-Garonne. Et vous êtes bien car il est 14h pétante et que vous allez vous laisser embarquer pour une heure de cinéma radiophonique avec votre émission préférée. Je veux bien sûr parler de Ciné-100. Comme vous le savez, sauf si vous vivez sur la planète Mars, Ciné-100 est la seule émission du PAF qui vous parle d'un cinéma d'avant, celui des années comprises entre 1900 et 2000. Bah, tiens, un peu comme mes compagnons habituels, hein. En premier lieu, celle qui nous enchante par sa grâce naturelle, sa voix si mélodieuse et sa capacité à nous chanter la Reine des Neiges. Je veux bien sûr parler d'Annelise.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bah écoutez, ça va bien.
Bah tant mieux. Vous voulez pas chanter un petit?
Non, bah non, il pleut.
Il pleut, d'accord. Et avec moi également celui qui nous charme les tympans par ses trouvailles musicales, sa voix douce et envoûtante comme un gourou d'Artigues, Jean-Jacques.
Bonsoir.
Ah, j'aime bien votre voix.
Pardon, excusez-moi. C'est
c'était mon oncle
qui,
Roger qui avait cette voix-là.
Bonjour Patrick, bonjour Annelise.
Bonjour Jean-Jacques.
Vous allez bien tout?
Je vais très très bien.
Ouais, ouais. Ça a l'air, ouais.
Et sans oublier Camille, de l'autre
Camille,
côté
bonjour
du Hugo. Salut Camille.
Bonjour Camille.
Alors mon cher Jean-Jacques,
oui.
De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui?
Eh ben, deux chiffres, tiens, pour commencer.
Bah oui.
1700.
C'est quelle année?
Bah, c'est le nombre estimé de westerns tournés depuis le début de ce genre en 1898.
D'accord.
Ça fait pas mal ça,
1700.
Alors le western, c'est quoi? Bah, c'est l'histoire de l'Ouest américain, l'histoire des Blancs et des colons qui repoussent les frontières, l'histoire des Indiens, qu'ils soient Sioux, Apaches, Comanches ou Cheyennes. Le western, c'est la guerre de sécession entre le Nord et Sud, qui sait ça un jour.
Bah, oui.
La lutte entre les grands propriétaires terriens et les fermiers, les shérifs et les bandits, l'histoire des voleurs, de trains et de banques. Du chemin de fer qui pousse d'est en ouest, des forts militaires où l'armée tente de faire régner l'ordre. Bon, ceci dit, ce que nous restitue le cinéma n'est pas le véritable Ouest, mais l'Ouest traditionnel, vous savez, sa nostalgie d'un paradis perdu. Voyez ces panoramas peuplés jusqu'à l'infini de troupeaux de bisons. Voyez cette nature vierge et illimitée. Oh, le rêve américain. Alors à cette carte postale, rajoutons bien entendu les valeurs du bien et du mal. Pour le bien, le chevalier sans peur et sans reproche, le peuple luttant pour des causes justes. Pour le mal, bah ceux qui en sont les auteurs, dont certains que nous allons retrouver. Billy the Kid, White Earp, n'est-ce pas? Entendez, vous entendez le galop des chevaux, le grondement du troupeau, l'écho qui se propage dans les montagnes rocheuses et qui précède l'arrivée au saloon. Une chanteuse presque toujours jolie et blonde apparaît dans les fumées de tabac et les vapeurs d'alcool. Poussez la porte de Ciné-100 et entrez. Notre épisode numéro 30 s'intitule « Les grands espaces ».
Connaissez-vous le William Muni?
À qui vous posez la question?
Bah, tout le monde.
Ah bon, moi personnellement,
vous
je ne le connais pas.
Non, et vous, Jean?
Moi j'en ai vaguement entendu parler.
Vaguement.
Il jouait à du bébé?
Ah, je suis pas sûre, peut-être au loup.
Ah,
c'est un ancien hors-la-loi reconverti dans l'élevage qui est amené à reprendre les armes pour une dernière mission.
Oui.
Venger une prostituée défigurée par un cow-boy sadique.
Ah, vilain. Ah.
Voilà la base d'Impitoyable.
Oui.
Réalisé en 92 par Clint Eastwood, dans lequel il joue également le rôle de Muni. Une fois n'est pas coutume, commençons par la fin avec un extrait de la scène finale.
Qui est le propriétaire de ce Touara? C'est toi, Grobin? Réponds.
C'est moi qui possède cet établissement. Je l'ai acheté à Grilly pour 1000 dollars.
Il vaut mieux que vous vous écartiez.
Attendez un moment! Attendez! Vous êtes le plus lâche de tous les salopards. Vous tirez sur un homme désarmé.
Ben, il aurait mieux fait d'être armé s'il voulait décorer son saloon avec mon ami.
Tu dois être William Money du Missouri. Tueur de femmes et d'enfants.
Exact. J'ai tué des femmes et des enfants. J'ai tué à peu près tout ce qui marche ou rampe, un moment ou un autre. Et je suis là pour te tuer, Little Bill. Pour ce que tu as fait à Ned. Vaut mieux foutre le camp les autres.
Maintenant, messieurs, il ne lui reste qu'une seule balle. Dès qu'il fera feu, vous sortez vos pistolets et vous la battez comme le chien galeux qu'il est. Descendez ce fils de pute!
Si vous voulez pas vous faire tuer, vous sortez tous par derrière.
Alors, ça, c'était une bonne idée.
C'est ouais, il valait mieux sortir par derrière parce que Clint Eastwood, quand il n'est pas content, il n'est pas
tire.
Content.
Non.
Et alors, une part importante de l'œuvre de Clint Eastwood consiste en les explorations au cœur de l'histoire américaine, l'après-guerre de sécession dans Impitoyable. Comme dans tous ses grands films, des revenants surgissent d'un passé oublié. Ici, c'est un ange de la vengeance, la main de la justice biblique que l'on retrouvait déjà dans deux autres films, L'homme des hautes plaines et...
Le Pale Rider,
absolument. Oui.
Impitoyable capture l'essence du western avec ses vastes paysages, ses duels au pistolet et ses personnages épris de liberté. Eastwood utilise des techniques de réalisation classiques, notamment des plans larges pour montrer les vastes étendues de paysages désertiques et des plans serrés pour montrer les émotions des personnages. Le film se démarque des autres westerns de son époque en raison de son réalisme cru et de sa violence explicite.
Carrément.
Ce qui le rend plus sombre et plus introspectif que la plupart des autres westerns, tout en restant fidèle aux thèmes centraux du genre. La musique de Lenny Newhouse ajoute également à l'ambiance avec des thèmes musicaux épiques et mélancoliques.
Alors, je parlais de chiffres tout à l'heure, j'ai continué sur la même lignée. Ce film donc, est considéré comme l'un des meilleurs westerns jamais réalisés. Bah, il a remporté 4 Oscars en 93, et non pas 93 Oscars en l'an 4, vous voyez ce que je veux dire. 4 Oscars en 93, celui du meilleur film.
Oui.
De la meilleure mise en scène, du meilleur second rôle masculin pour Gene Hackman et du meilleur montage.
Bravo.
Et au total, chiffre encore, il était nommé le film dans 9 catégories. On rajoutera celle de meilleur acteur, de meilleur scénario, de meilleure photographie, de meilleur son et de meilleur décor. Ouf.
Hormis Impitoyable, d'ailleurs, il n'y a que 2 westerns à avoir remporté l'Oscar du meilleur film.
Alors, je sais pas.
Patrick, peut-être.
Moi, je pense que j'ai l'idée, oui.
La ruée vers l'or de Wesley Ruggles en 31.
Vers l'ouest.
La ruée vers l'or, c'est Charlie
vers l'ouest.
Chaplin. Qu'est-ce que vous racontez, Chaplin. Vous n'êtes pas crédible.
La ruée vers l'ouest. Oh oui.
Ah, la ruée vers l'ouest, oui. C'est Wesley Ruggles,
ça.
Voilà, tout à fait. Ouais. En 31, donc.
Oui, c'est ça.
Et Danse avec les loups de Kevin Costner en 90.
D'accord.
Ah, d'accord.
Et oui.
Ah, bah oui. Ah bah d'accord. Et alors côté recettes aux États-Unis, le film a engrangé 51,5 millions de dollars.
Pas mal.
Et le coût de production s'élevait quant à lui à 35 millions de dollars.
Beau bénéfice.
Alors Clint Eastwood cumule les fonctions sur le film. En plus de le réaliser et d'en tenir le rôle principal, il agit en tant que producteur et a même composé un thème musical intitulé Claudia.
mais c'est un peu...
Comment que vous me disiez ?
Je disais que c'était très beau, que c'était un peu triste.
Oui, c'est un peu,
oui, c'est un peu mélancolique. Hein,
ouais. Oui, voilà.
C'est voulu. Hein, je sais pas.
Je pense que c'est voulu. Je pense
Patrick, que vous vouliez nous dire quelque
absolument
chose.
Absolument rien, non.
Bon, très bien. Ah bon, mais, très bien.
Si, alors je vais vous parler d'un autre film.
Ah, allons-y.
Allez. Mais qui a marqué aussi là toute une époque, puisqu'il s'agit de Johnny Guitar.
Ah, Johnny Hallyday.
Non, Johnny Guitar, pas Johnny Hallyday, n'a rien à voir dans le film. Johnny Guitar faisait partie de ces films qu'on regardait sur les campus américains pour mieux se moquer d'une vision un peu idéalisé de la vie dans le Grand Ouest. Mais c'est pour autant un film d'une importance capitale dans l'histoire du cinéma. Et c'est pour certains le plus beau western de tous les temps. Sorti en 1954, il est l'œuvre de Nicolas Ray sur un scénario de Philip Jordan.
Alors,
un homme à cheval, Sterling Hayden, sans armes mais avec une guitare sur le dos, arrive dans un saloon isolé qui appartient à Vienna.
Oui, qui...
John Crawford.
Ah, très bien.
John. D'ailleurs.
Oui, oui, c'est...
Cette dernière a acheté cet établissement, persuadée que le futur tracé du chemin de fer passera un jour à proximité. Elle refuse donc de quitter les lieux malgré le fait que les éleveurs de la région cherchent à la faire partir pour deux raisons.
Alors d'abord parce qu'il lui reproche son intérêt pour les travaux du chemin de fer auquel il s'oppose, craignant l'arrivée massive des colons avec tout ce que cela implique, quoi, les barbelés, les partages des terres, des points d'eau, bref, la fin de leur règne. Quoi.
Mais il la soupçonne également d'abriter l'équipe de Dancing Kid, sur laquelle ils font reporter tous les maux.
Pour se protéger de l'hostilité grandissante qui l'entoure, Vienna a donc fait venir Johnny, qu'elle s'est fait une gâchette, afin de l'embaucher comme garde du corps. Extrait.
Je suis navrée, Emma. Votre frère était vraiment un très brave garçon.
Qu'en savez-vous ? Il ne vous a jamais parlé, il ne vous a même jamais regardé.
N'empêche, il était un très brave garçon.
Nous voulons Dancing Kid et ses hommes.
Pourquoi venez-vous le chercher ici ? Il n'habite pas chez moi.
Faites partie de sa bande !
Laissez-nous faire.
Nous n'avons pas besoin de vous, Marshall.
Nous avons assez d'ennuis comme ça sans que vous nous en causiez d'autres.
Les seuls ennuis que vous trouverez ici seront ceux que vous y aurez apportés.
Jenks ?
Oui, monsieur McIvers.
C'est toi qui conduisais la diligence, tu as vu le meurtrier. Qui est-ce ?
Réponds à la question. Eh bien, ils étaient quatre.
C'est le nom du meurtrier que je veux.
Je ne l'ai pas reconnu, j'avais le soleil en plein dans les yeux.
Vous nous avez dit que c'était Dancing Kid. Redites-le.
C'est vous qui avez dit que c'était le Kid, moi j'ai seulement dit peut-être.
Alors, messieurs, pas d'autres témoignages ?
Celui-ci est grandement suffisant. Et nous allons vous conduire en prison, vous et vos hommes.
Eddie ? Cela suffit, cessez de faire tourner la roulette.
Johnny Guitar, ce qu'on entendait, c'est la roulette qui
la
tournait,
roulette.
Puisqu'elle dit à la fin, Vienna dit à la fin, arrêtez de faire tourner la roulette.
Mmh. Oui, ça tombe bien. Ouais.
Ça tombe bien, parce que c'était une roulette qui roulait.
Parfait.
Johnny Guitar repose pour beaucoup sur les épaules de John Crawford. Alors oui, on sait que Nicolas Ray et elle avaient une liaison et qu'ils désiraient la mettre au générique de ses films.
Ouais, c'est commode.
Ben oui, c'est pratique. Hein. Mais il faut bien constater qu'au-delà de sa plastique, John Crawford s'est totalement identifié au personnage de Vienna. Quant à la réalisation, il s'agit probablement du premier western qui a abandonné le classicisme au profit d'un romantisme exacerbé. Fille de la minutie et de la sobriété du classicisme, bienvenue à l'effervescence et des éléments constitutifs d'une mise en scène, que ce soit à travers des angles de prise de vue, l'utilisation de la couleur, du tournage de cette d'action, avec l'utilisation pour certains plans de la caméra à l'épaule. Ah. Donc très novateur finalement en 54.
C'est du Lelouch avant la lettre.
Ouais, c'est ça, c'est tout ça. À fait. Et on sait que Lelouch aimait beaucoup ce film. De plus, tourné pendant l'activité de la commission McCarthy, Johnny Guitar est aussi une parabole sur la situation politique de l'Amérique de l'époque.
Alors, Orient anecdote.
Oui.
John Crawford éprouvait une haine au-delà de toute proportion pour Mercedes McCambridge, qui dans le film jouait une riche propriétaire puritaine. Eh bien, Nicolas Ray a retrouvé un soir Crawford ivre sur le bord d'une route en train de lacérer au couteau tous les costumes de Mercedes avant de les jeter dans les fourrés.
Ah bah bravo.
Comment éliminer la concurrence ?
De son côté, Sterling Hayden n'appréciait pas son interprétation dans le jeu, ajoutant ironiquement qu'on lui avait donné le rôle car il ne savait ni monter à cheval ni jouer de la guitare et qu'il détestait tirer au revolver. Ambiance. Oh là là. Allez, Johnny Guitar, la chanson du générique de fin est chantée par Peggy Lee.
Play the guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm inside. Johnny guitar. Play it again, Johnny guitar. What if you go? What if you stay? I love you. What if you're cruel? You can be kind, I know. There was never a man like my Johnny, like the one they call Johnny.
C'est pas d'une gaieté étouffe.
Qu'est-ce que c'est beau.
Oui, mais alors là, ça fait deux musiques qu'on enchaîne.
Oui, mais c'est pas de notre faute à nous. Qui choisit les musiques
ouais, qui, après tout, les réalisateurs. Hein.
Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Un western peut être un vrai spectacle familial. Ouais. Le saviez-vous? Eh bien, il en est ainsi de Butch Cassidy et le Kid, réalisé en 69 par George Roy Hill.
Là, les bandits sont des gars bien, des gentils.
Ah.
Et idée de génie, la bande attaque une deuxième fois un train. Sur le trajet de retour, les exploits des deux compères sont partout célèbres. Alors on leur lance aux fesses les détectives de la célèbre agence de Pinkerton.
Alors on va sortir de la fiction parce que Butch Cassidy et le Kid ont réellement existé. Ils défrayèrent la chronique américaine en devenant deux des plus célèbres voleurs de train les plus recherchés du pays, poursuivis par les autorités locales et fédérales. Bon, tout cela n'ayant qu'un temps, Sundance Kid est présumé mort lors d'une fusillade en 1908 en Bolivie, mais aucun certificat de décès n'a été délivré. Alors, si ça se trouve, il est toujours vivant.
Si ça se trouve, il est toujours vivant. Et peut-être que c'est encore lui qui attaque les trains.
En tous les cas, il est vivant d'une certaine façon, puisque Robert Redford a repris le prénom du Kid, Sundance, pour son festival.
Pour le festival de Sundance, oui. Et quant à Butch Cassidy, les circonstances de sa mort ne sont pas bien connues.
Ah.
Il aurait été tué lors de la même fusillade en Bolivie, mais, selon sa sœur, il serait revenu dans son pays et aurait vécu de nombreuses années avant de mourir de vieillesse.
Bien que considéré comme un criminel, Cassidy était également vu comme une figure folklorique de l'histoire américaine. Son style de vie et sa personnalité charismatique ont contribué à sa célébrité posthume et à sa légende.
Alors, la thématique de fond du film, eh bien, c'est la fin d'un monde insouciant et l'avènement d'un nouveau dans lequel les héros ne se retrouvent plus. C'est à la fois un western, avec ce qu'il faut d'action, de coups de feu, de bagarre et d'aventure, et également une comédie.
Qu'est-ce que tu proposes de mieux ?
La Bolivie.
C'est quoi la Bolivie ?
La Bolivie ? C'est un pays idiot. C'est en Amérique centrale ou en Amérique du Sud.
Moi, j'aurais choisi Mexico, c'est à côté.
Il n'y a rien à faire à Mexico, c'est comme ici, on n'arrête pas de transpirer. Si on avait été dans les affaires au moment de la ruée vers l'or en Californie, où penses-tu qu'on serait allé ? Ben, en Californie.
Ben oui.
Alors, quand je dis Bolivie, imagine que c'est la Californie. Tu n'as aucune idée des richesses qu'on trouve en Bolivie. Il faut juste creuser la terre. Il y a des mines d'or, des mines d'argent, des mines d'étain. On sera tellement riche qu'on pourra même ouvrir une banque.
Toujours plein d'astuces, Butch. Hein? Tu creuses aussi ton cerveau.
Mon cher, l'avenir de ce monde appartient aux intellectuels.
Paul Newman is Butch Cassidy. And the Sundance Kid is Robert Redford.
Ah, j'aime bien ça.
Oui. C'est chouette. C'est
sympa. Hein? Et oui, Annelise, oui.
Oui, tout le charme du film vient d'un duo d'acteurs.
Ah bon?
Mégastar à l'époque. Oui. Comédien engagé, exigeant, à jamais indissociable, Paul Newman et Robert Redford.
Vous êtes sûr?
Oui.
Bon. Mais savez-vous qu'avant eux, oui. Jack oui. Lemmon, Marlon Brando, Justin Hoffman et Steve McQueen avaient d'abord été retenus?
Tous ensemble?
Tous ensemble, oui, comme à l'UBB. Oui, oui. Mais finalement, Newman jouera Cassidy et Redford héritera de l'autre rôle.
Au casting, on retrouve également Catherine Ross, qui joue l'institutrice Etta Place, l'amante de Sundance. Le film a bénéficié d'un beau budget, d'un long délai de préparation et 2 mois et demi de tournage.
Et au final, un énorme succès public pour cette grosse production, auréolée de 4 Oscars.
Olé.
Meilleure photographie, meilleur scénario original, meilleure musique et meilleure chanson originale pour « Raindrops Keep Falling on My Head » de Burt Bacharach et Hal David, chanté par B.G. Thomas. Je pense que cela vous va vous rappeler quelque chose.
Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape?
Sur 91.3 haut de radio, bien entendu.
Bon, alors, il faut bien le reconnaître, le western est souvent une affaire d'homme. Pourquoi je prends ça?
Je sais pas.
Oui, et un homme à lui seul va écrire la légende du western, c'est le réalisateur John Ford.
De son véritable nom, Sean O'Finney, c'est un véritable Irlandais né dans l'état du Maine en 1894. À 19 ans, il rejoint son frère Francis en Californie et débarque à Hollywood. Le jeune homme fait le cascadeur, puis devient assistant réalisateur pour le compte de Francis.
En 1917, il remplace au pied levé un réalisateur absent et il peut ainsi tourner son tout premier film, The Tornado. Le passage au parlant ne lui pose pas de problème particulier. Il connaît la consécration avec Le Mouchard en 1935, qui remporte 4 Oscars, dont son premier en tant que meilleur réalisateur.
Et c'est le temps de la gloire pour John, dont chaque film devient alors un événement. En 1939, il réalise La Chevauchée Fantastique. qui va marquer le début de l'âge d'or du western.
Oh, arrêtez, m'en parlez pas. Après la Seconde Guerre mondiale, en l'espace de 5 ans, il réalise quelques chefs-d'œuvre du genre.
Allons-y.
La Poursuite infernale, Le Massacre de Fort Apache, La Charge héroïque, Le Convoi des Braves et Rio Grande.
Puis en 56, c'est La Prisonnière du désert, magnifique. Suivant L'Homme qui tue à Liberty Valance. Et enfin, Les Cheyennes, qui permet au réalisateur de se pencher de manière humaniste sur le peuple amérindien.
On en a parlé il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs, des Cheyennes,
oui.
Semble-t-il.
Oui, tout à fait, oui. Alors, Ford, il a abordé tout ce qui était abordable dans le western, n'est-ce pas ? La cavalerie, les règlements de compte, la réalité, la légende de l'Ouest, entre autres.
Les nouveaux paysages découverts au moment de la conquête de l'Ouest.
Aussi, oui.
La neige du Montana, la sécheresse de l'Arizona, la vallée de la mort.
Des figures charismatiques comme Wyatt Earp, Buffalo Bill ou Davy Crockett.
Au fil d'une vingtaine d'années, il va écrire quelques-unes des plus belles pages du cinéma mondial. Imaginez un peu, pas moins d'une dizaine de chefs-d'œuvre sur les 12 westerns tournés.
C'est énorme.
C'est énorme.
Alors,
énorme.
Il décède en 73 à l'âge de 79 ans, restant à jamais considéré comme l'un des plus grands réalisateurs de l'âge d'or hollywoodien. Il aura réalisé à lui tout seul 142 films.
Et revenons à la fin des années 60,
allez,
si vous le voulez bien, ou au début des années 70.
Comme vous voulez.
Je vais prendre la fin des années 60,
d'accord,
alors.
Oui.
Ou le début des années 70.
Oui, peut-être, il vaut bien.
Le western représentait alors tout un pan du cinéma italien connu sous le vocable que détestait Sergio Leone, le western spaghetti.
Oui. Mon nom est personne, My Name is Nobody en anglais, est un western spaghetti de 73 réalisé par Tonino Valeri et produit par Sergio Leone. C'est le récit d'une amitié dans l'Ouest américain du début du XXe siècle entre un vieux héros de l'Ouest usé et un jeune loup solitaire admirateur du premier. L'histoire de Jack Beauregard et personne.
My Name is Nobody
est
considéré comme l'un des meilleurs westerns comiques. Jamais réalisé. Enfin, si, il a été réalisé.
Ah oui, il a été réalisé.
Grâce à la performance de Terence Hill dans le rôle de Nobody et d'Henry Fonda dans celui de Jack Beauregard que l'on retrouve dans l'extrait qui suit.
J'ai trouvé la morale de la fable que ton grand-père a contée. Celle du petit oiseau que la vache avait recouvert de merde pour le tenir au chaud et que le coyote a sorti et croqué. C'est la morale des temps nouveaux. Ceux qui te mettent dans la merde ne le font pas toujours pour ton malheur. Et ceux qui t'en sortent ne le font pas toujours pour ton bonheur. Mais surtout ceci, quand tu es dans la merde, tais-toi. C'est pour ça qu'un type comme moi doit disparaître. Ton idée d'un duel truqué était bien la marque de ces temps nouveaux. C'était le moyen le plus élégant de me faire quitter l'Ouest. D'ailleurs, je suis fatigué. Car il n'est pas vrai que les années produisent des sages. Elles ne produisent que des vieillards. Il est vrai qu'on peut aussi être comme toi, jeune en nombre d'années et vieux en nombre d'heures. Oui, je débite des phrases pompeuses, mais c'est ta faute. Comment parler autrement quand on est devenu un monument historique ? Je te souhaite de rencontrer un de ces êtres que l'on ne rencontre jamais, ou presque jamais. Ainsi, vous pourrez faire un bout de chemin ensemble. Pour moi, il est difficile que le miracle se reproduise. La distance rend l'amitié plus chère, et l'absence la rend plus douce. Mais depuis 3 jours que je ne t'ai pas vu, tu commences à me manquer. À présent, je dois te quitter. Et bien que tu sois le roi des fumistes et le prince des emmerdeurs, merci pour tout.
Ben voilà, c'est dit.
Ça, tout est dit là.
Alors, le personnage de Nobody représente bien sûr le jeune et ambitieux esprit entrepreneurial de l'époque.
Oui.
Cherchant à briser les anciennes traditions. Non, rie pas avec ça, s'il vous plaît, c'est sérieux. Et qui cherche aussi à innover dans un monde en constante évolution.
Henry Fonda, quant à lui, incarne l'archétype du cow-boy vieillissant,
ouais,
un personnage nostalgique pour une époque révolue.
Il le fait bien,
le
hein.
Film explore également des thèmes tels que la mort et l'obsolescence de l'industrie du western en utilisant des techniques de réalisation innovantes telles que des plans larges et des gros plans pour créer une ambiance de nostalgie et de désillusion.
Alors, Annelise, vous allez nous dire pourquoi cette mode des western spaghetti.
Eh bien, ils étaient moins coûteux à produire que les westerns américains traditionnels. Faut dire qu'au début des années 70, les États-Unis sortaient d'une période de récession économique liée à la guerre au Vietnam et à l'augmentation du prix du pétrole. Les westerns d'alors étaient tournés en Italie ou en Espagne avec des acteurs locaux et un budget très limitée.
Et Terence Hill avait une relation de travail étroite avec Sergio Leone. Les deux hommes ont travaillé ensemble sur plusieurs projets de films au fil des ans. Notamment, on l'appelle Trinita et on continue à l'appeler Trinita. C'est normal, c'était son nom en même temps.
Donc, oui. Si vous le voulez bien, ouvrons une petite page mythologie.
Oui, ouvrons-la.
Le titre du film et le nom sous lequel est désigné le personnage de Terence Hill renvoient à une ruse d'Ulysse dans l'Odyssée.
Ah bon,
répondant au cyclope Polyphème, et qui l'interroge sur son identité, le héros d'Homère prétend s'appeler
Personne.
Ainsi, lorsqu'il est ensuite demandé au cyclope qui lui a crevé l'œil, ce dernier ne peut répondre que Personne.
Oh, c'est alors, formidable.
D'ailleurs, tiens, ce jeu-là, sur un nom qui n'en est pas un, en fait, également, il a été repris dans Dead Man. Vous savez,
tout
de Ginger Mush,
oui,
avec cette super musique de Neil Young qui accompagne le film. Et on y retrouve un personnage qui répond au nom de Nobody aussi. Bon, alors, pour Mon nom et Personne, le film dont on parle, la musique pleine d'humour comme le film est signée Ennio Morricone.
Oh, c'était bien mignon tout ça. En 1969, présenté par son réalisateur Sam Peckinpah comme étant simplement ce qui arrive quand des tueurs se rendent au Mexique, La Horde Sauvage fait en réalité écho aux images de la guerre du Vietnam qui divise alors l'Amérique. C'est une épopée de la défaite et de toutes les valeurs, y compris religieuses. À partir d'un scénario de western, Peckinpah dépeint un monde pessimiste et immoral. On va pas y arriver. Où le progrès s'avère destructeur et dont la violence n'est pas de rien ni personne.
Oui.
Pas même les enfants.
Non, c'est sûr.
Bon, alors, revenons à
l'histoire.
Dehors la loi, menée par Pike Bishop, attaque les bureaux d'une compagnie de chemin de fer avant de s'enfuir Excusez-moi, mais avant de s'enfuir dans un Mexique en pleine révolution, c'est triste, quoi. L'ancien frère d'armes de Pike, Dick Thornton, n'a d'autre choix que de les traquer. Il doit les tuer s'il veut pouvoir lui-même retrouver la liberté. Et bien voilà le point de départ de ce film d'une rare violence pour l'époque, car on a fait mieux depuis, hein.
Oui. Ah bah oui, quand même.
Il a été décrié par les autorités de censure américaines qui l'ont amputé d'une partie de sa substance. Et même la commission de censure française y est allée de son commentaire. Il a même été interdit au moins de 18 ans pendant un temps, figurez-vous.
Ouais, bah oui, on se figure bien. Alors les acteurs sont fantastiques. Oui. Hein, oui. Au premier rang desquels, William Holden, dans son personnage de Pike Bishop, résolu à sauver sa peau par tous les moyens qu'il pourra imaginer. Oui. Ernest Borgnine n'en est pas en reste. Il n'était pourtant pas dans les premiers choix de Peckinpah, qui lui aurait préféré Steve McQueen ou Charles Bronson. Mais il dira plus tard, c'est l'un des meilleurs gars avec lequel il a jamais travaillé. On pourra difficilement faire mieux comme éloge.
Oui, c'est sûr.
Tout à fait. L'action se déroule en 1914. Hein? L'apparition des premières voitures à essence donne à ce western un goût étrangement un goût étrange d'anachronisme.
Oui, il n'y a pas que lui.
C'est ça. La modernité rejoint la tradition. Les personnages sortent de l'histoire du cinéma, la faisant basculer dans le XXe siècle à peine naissant.
Alors décidément, je suis très chiffre.
Oui, aujourd'hui,
le budget initial alloué au film était de 3,5 millions de dollars. Mais les exigences de Peckinpah le feront exploser, le budget. En dépit des plaintes incessantes de son producteur qui le suppliait de diminuer les frais, le budget final s'élèvera à plus de 6 millions de dollars.
Mon Dieu.
Ouais. Mais il rapportera tout de même 10,5 millions de dollars au box-office américain en 70.
Bah c'est pas mal, ça. Oui. Parmi les critiques négatives, Henri Chapier écrit dans Combat.
La violence n'est qu'un euphémisme pour dénoncer cette boucherie atroce. Et l'on se demande s'il ne faut pas expliquer la horde sauvage comme un véritable règlement de compte entre Sam Peckinpah et Hollywood, entre un cinéaste de la révolte et l'Amérique moderne.
Non, mais ils ont voté un peu plus que ça.
Oui, vous voulez que je leur fasse ?
Non, merci.
Ça va aller.
Allez, pour l'Express. Claude Vieillot admire.
Oui.
Admire qui,
Jean-Jacques ? Sam Peckinpah, bien sûr, qui décrit son épopée suicidaire avec une tension brutale, mais sans jamais en tirer d'effet sadique. La maîtrise de son art est totale, et c'est la beauté, finalement, qui surgit de cette interprétation sublimée de l'horreur.
La horde sauvage n'a pas laissé indifférent, même si le revoir aujourd'hui n'aurait sans doute pas le même impact dans le rapport que l'on a avec la violence. Bon, Oliver Stone, Stanley Kubrick, Clint Eastwood et bien sûr John Woo sont passés par là. Le film est rythmé par sa bande originale, composée et dirigée par Jerry Fielding, et cela donne Adelita.
Thank you.
Dans la catégorie des grands classiques du western, on retrouve, comme évoqué tout à l'heure, La Poursuite Infernale, réalisée par John Ford, sortie en 1946, petit pitch.
En 1882, dans l'Arizona, les quatre frères Earp, White, Virgil, Morgan et James convoient un troupeau de bétail vers la Californie et passent la nuit près de Tombstone, une ville sans loi et sans shérif. Pendant que James, le plus jeune, garde le campement, ses trois frères vont se distraire en ville. À leur retour, ces derniers découvrent que James a été assassiné et que le bétail a été volé. White accepte alors de devenir le shérif de la ville et enquête pour venger la mort de son plus jeune frère. Il fait la connaissance de Doc Holliday, ancien médecin devenu alcoolique et propriétaire du saloon dont est amoureuse la chanteuse Chihuahua.
Dans la distribution, on retrouve Henry Fonda dans le rôle de Wyatt Earp, oui. Victor Mature dans celui de Doc Holliday, Linda Darnell et Walter Brennan.
Fonda est un habitué des films de John Ford. Il a souvent incarné des figures emblématiques de la civilisation américaine, positives comme dans Les Raisins de colère, ou plus sombres comme dans Le Massacre de Fort Apache.
Alors sans vouloir nier la qualité des doublages en français, hein, qui sont très bons en général, rien ne vaut les voix originales des acteurs et actrices. Eh bien, voici deux exemples concernant Henry Fonda dans certains de ses westerns. L'extrait est tiré d'une émission d'Arte, Blow Up.
Le Massacre de Fort Apache avec John Wayne.
I'm Captain York, sir. I bid you welcome, General Thursday.
Not a general, Captain. Man is what he's paid for. I'm paid in the rank of Lieutenant Colonel.
I'd remembered you as a general from the war, sir.
Very flattering.
La Poursuite Infernale, la première rencontre avec Doc Holliday, alias Victor Mature.
Howdy.
Good evening.
I'm
Wyatt Earp. I know. I know all about you. And your reason for being here.
But I heard a lot about you too, Doc. You left your mark around in Deadwood, Denver and places. Fact, a man could almost follow your trail going from graveyard to graveyard.
There's one here too. The biggest graveyard west of the Rockies. Marshals and I usually get along much better when we understand that right away.
Get your meaning, Doc.
Good. Have a drink?
Thanks, believe I will.
Mac, a glass of champagne for the marshal.
Make it whiskey.
You're my guest, Marshal. Champagne.
Alors, il y a des gens qui sont alcooliques au whisky et d'autres au champagne.
Au champagne, oui, je vois ça. Vous connaissez.
Alors, pour en revenir au personnage du film, White Earp a réellement existé, lui aussi. Il est connu principalement pour sa participation à la fusillade d'Hockey Corral. Cette fusillade, d'ailleurs, qui inspirera par ailleurs le film Règlement de compte à Hockey Corral de John Sturges 10 ans plus tard.
Celui qui disait la rapidité c'est bien, mais la précision c'est
oui,
tout,
ça,
est décédé
d'accord.
Dans son lit à l'âge de 80 ans. À propos de Wyatt Earp, Ford déclarait :
Je l'ai connu dans les premières années du cinéma muet. Il venait quelquefois au cours de l'année rendre visite à ses camarades et cow-boys qu'il avait connus à Tombstone. Là, une partie d'entre eux appartenait à notre compagnie. J'avais l'habitude de lui donner une chaise et une tasse de café. Il me parlait de la bataille d'Hockey Corral. Et aussi, lorsque j'ai tourné La Poursuite Infernale, je l'ai reconstituée telle qu'elle avait eu lieu.
Alors, John Ford tenait absolument à tourner dans le Monument Valley, qui avait déjà servi de cadre, vous savez, à la Chevauchée Fantastique en 1939. Oui. Bien que la ville de Tombstone se situe en réalité près de la frontière mexicaine. Bref, ce qu'il a fait, il a fait reconstruire un village entier pour le tournage, voilà, pour la somme de $250,000.
Oh, bah voilà.
Je ne sais pas ce qu'il est devenu, d'ailleurs.
Oui, c'est une bonne question.
Et un tournage qui a duré 2 mois et demi seulement.
Oh, My Darling Clementine, qui est le titre originel, et aussi une mélodie de l'Ouest américain reprise dans le film.
Oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. In a cavern, in a canyon, excavating for a mine, dwelled a miner 49er and his daughter Clementine. Light she was and like a fairy, and her shoes were number 9. Herring boxes without topsis, sandals were for Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling. than Clementine. You are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Drove she ducklings to the water every morning just at nine. Hit her foot against a splinter, fell into the foaming brine. Ruby lips above the water, blowing bubbles soft and fine. But alas, I was no swimmer, so I lost my Clementine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine. You are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine.
Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure.
Alors, John Ford vient de nous appeler par téléphone et c'est, on confirme bien, c'est « Oh, my darling Clementine », non pas « My darling Clementine ». Bon, le petit jingle qu'on vient d'entendre, c'est celui de notre séquence coup de cœur. Tous les 15 jours, chacun d'entre nous donne son petit coup de cœur pour pourquoi tiens d'ailleurs aujourd'hui c'est Anne-Lise de
Eh bien aujourd'hui c'est pour un livre, une BD écrite par Cécile Brun et Olivier Pichard qui s'appelle Onibi, en sous-titre Carnet du Japon invisible. C'est une petite BD qui suit en fait deux personnages qui se baladent à travers le Japon et
c'est pas la Corée.
Non, c'est le Japon et qui achète un vieil appareil photo et qui cet appareil photo est censé imprimer sur sa pellicule les petits yokai, les esprits japonais et autres tanuki qu'on va trouver tout au long du voyage.
D'accord.
Et donc on va se balader entre le Japon plutôt moderne et le Japon plutôt ancien, entre ce Japon en équilibre entre ces deux mondes.
D'accord.
Et c'est très joli, c'est très bien écrit, c'est très bien dessiné
oui.
Aussi.
D'accord. Qui c'est qui dessine les deux?
C'est une bonne question. Oui, je ne sais pas lequel des deux décide.
Ça va ensemble.
Voilà. Et c'est l'atelier Santo qui édite cette BD et qui est très très sympathique. Alors on va surtout la trouver sur Internet. L'édition les équinés.
Mais ça existe sur papier quand même.
Oui, ça existe sur papier. Bon. J'ai lu la BD en papier, mais je l'ai achetée sur Internet.
D'accord.
Sur une grosse plateforme.
Sur machin Bezos.
Non.
D'accord.
D'accord.
Voilà, c'était mon petit coup de...
Alors, rappelez-nous le titre de l'ouvrage.
Eh bien, ça s'appelle Onibi.
D'accord.
Voilà.
Et ça s'écrit comment, ça ?
O-N-I-B-I.
Artreuse, tout simplement.
De Cécile Brun et Olivier Pichard.
Eh bien, voilà, fallait s'y attendre. 6 décembre, c'est fini.
Oh non !
Mais c'est fini pour aujourd'hui, bien sûr.
Bon.
Ah oui, j'aime bien cette blague récurrente.
Oui, oui, oui.
Alors nous allons ranger nos Smith & Wesson, nos Winchester, nous allons panser nos chevaux. Et vous, vous pourrez aller au cinéma. Car oui, il y a plein de bons films qui sortent en ce moment. Sinon, vous pourrez prendre un bon bouquin ou tiens, même aller au théâtre éventuellement, si ça vous dit. Mais c'est aussi une bonne idée. Mais si le cœur vous en dit, vous pouvez également écouter cet épisode ainsi que tous les autres en podcast sur le site d'O2 Radio. Ouais, quant à nous, nous ne nous retrouverons pas la semaine prochaine,
ah ben
car
non.
Nous retrouvons une petite semaine de vacances
oui.
Pour mieux préparer les épisodes
et
qui vont suivre.
À la place, il y aura l'excellente programmation musicale d'Audio Radio.
Tout à fait,
mais ça on n'en doute absolument pas. Mais on va se retrouver nous le 9 mai
oui.
Où il sera question de potacherie et d'humour absurde.
Et ben, ce sera sur Audio Radio 91.3, bien entendu.
Et on va se quitter avec Knocking on Heaven's Door, chanson composée par Bob Dylan pour le film Pat Garrett and Billy the Kid, réalisé par Sam Peckinpah en 73. Allez, au mardi 9 mai, et pourquoi je prends cette voix-là ? Et en attendant, bon vent à tous.
getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knock.